Merci beaucoup de nous accueillir avec ce joli temps printanier, avec un soleil qui nous éclaire encore. Ça nous change du 1er décembre, hein. Donc là, on était plongé dans la nuit et on a pu apprécier aussi bien le voyage que maintenant avoir un air bien différent. Merci pour ces retours. Et il est parfois, quand on n'a pas participé à un atelier, pas si facile de bien percevoir la sève. On reçoit vos mots, mais quelle était la sève ? Donc, du coup, si jamais vous avez l'impression que on vous rate complètement et que ce n'est pas du tout ce que vous vouliez dire et ce sur quoi vous vouliez attirer notre attention, surtout intervenez et dites-nous ce n'est pas exactement là où on voulait insister, parce que ça, c'est intégré dans la manière de travailler qui veut ça. En tous les cas, quand on parcourt les expressions, les mots, comme disait Dominique là tout à l'heure, il y a l'atelier en février où vous êtes vraiment allé dans des formulations très intéressantes où chacun a cherché à dire au mieux ce qu'il ou elle trouvait chez les autres. Et certaines choses sont une très 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 belle lucidité, profondeur, mais aussi en indiquant la grande question du manque d'unité. Donc si on est dans le cadre d'un retour sur ce cheminement qui du conflit puisse nous amener jusqu'à la communion, il est vrai qu'il est important de se dire aussi ce qui nous heurte et ce qui fait un certain nombre de difficultés. Avec Franck, on s'était dit, il n'y a pas énormément de questions précises, des grandes questions précises qui nous sont arrivées. Donc du coup, on reprendra les quelques questions qui se trouvent dans les papiers à l'intérieur de notre manière de parler. Mais nous espérons tout de même que vous allez retrouver un certain nombre de choses, parce que du coup, on s'était mis d'accord pour dire, avoir rentré dans le travail complexe pour nous aussi, de reprendre les 5 impératifs et de vous dire ce que nous en, comment on les pense. Donc du coup, on n'est pas au fil des retours sur vos ateliers, mais avec un peu de recul dans cette manière de lire et de relire chacun à sa manière les 5 impératifs. Voilà pour vous dire un peu la méthodologie que nous avons choisie pour ce soir, pour à la fois entamer le même chemin que vous et à vous partager un peu nos interrogations. On aura, comme toujours, un temps de questions à la fin pour vous laisser la possibilité de nous interroger sur telle ou telle question précise ou plus globalement ce qui vous paraît ressortir de cet ensemble. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Bon. Du coup, puisqu'il y a 5 impératifs, on s'est dit aussi qu'on va parler à tour de rôle, parce que on n'a pas accentué de manière égale ces 5, puisque moi j'ai surtout pris le premier, c'est moi qui commence, et toi tu continues. Voilà. Donc du coup, on va faire un petit va-et-vient entre nous deux et pas simplement 40 minutes pour un et 40 minutes pour l'autre pour que ce soit moins difficile pour vous à écouter. Voilà, le premier impératif. Catholique et luthérien, donc protestant, devrait toujours se placer dans la perspective de l'unité. et non du point de vue de la division. Cet impératif est en fait une invitation de passer d'un regard d'observation, d'un regard historique, d'un regard sociologique, vers le regard de la foi. Donc il s'agit de fermer les yeux du raisonnement, en tout cas dans un premier temps, et d'ouvrir les yeux de la foi. Déjà là, c'est un vrai carême. Même si nous sommes en temps pascal, il y a là quelque chose qui a besoin de notre attention. Nous sommes infiniment plus vite pris par un regard qui s'appuie sur notre sensibilité que par un regard qui donne priorité à la foi. Cette foi, elle est évidemment une foi pascale. La perspective de l'unité ne peut pas être un regard qui se contenterait avec une organisation. Donc ici, par exemple, dans l'Oise, vous êtes super bien organisé pour des événements communs. Donc nous avons entendu plusieurs choses, par exemple, là, pendant la Semaine Sainte, le mercredi, la Journée des Chrétiens. Donc il y a des initiatives très belles, très fortes, dans votre diocèse, et on pourrait dire aux autres diocèses, allez voir ce qui se passe déjà dans l'Oise, c'est super. Et pourtant, si ce n'est pas vu avec les yeux de la foi, on ne voit pas la bonne chose. Donc, c'est être renvoyé, les yeux de la foi, pour ce qui est la question de l'unité, est en fait un renvoi à la confession de foi de Nicée-Constantinople. Quand nous disons, nous croyons l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Dire ces quatre notes du mystère de l'Église à l'intérieur et à partir du mystère de la Trinité, c'est se dire que ces quatre notes ne peuvent pas être séparées les unes des autres. Pour bien comprendre cette unité dont il est question, il faut aussi, pour l'Église, il faut aussi se référer à creuser le sens de la sainteté. L'unité nous vient de Dieu, la sainteté nous vient de Dieu, la catholicité nous vient de Dieu, sinon elle est diabolique, et l'apostolicité, donc être envoyé avec d'autres, nous vient chaque fois de Dieu. Donc à l'intérieur du credo, ça se remarque très facilement, hein, donc on ne commence pas par dire « je crois l'Église » ou « je crois en l'Église » ou « je crois dans l'Église », selon les variations des traducteurs, des manières de recevoir. Mais on commence bien le Créateur, le Fils, avec son mystère pascal et la force de l'Esprit. Donc, dire, rentrer dans une perspective où l'unité est première, c'est une manière de renvoyer à l'ensemble de la Bible. Parce que l'Ancien Testament dit de manière forte que le Dieu d'Israël est, et donc là en français on doit donner deux mots tout de suite, il est un et il est unique. Donc ça, en français, les deux mots n'ont pas exactement la même connotation. Donc, il est unique. Il est unique, il est vivant. C'est pas une statue, c'est pas une idée, c'est pas quelque chose qui serait fixe. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui surprend avec sa vie. Il a une manière unique de signer son passage. Il a une manière unique d'appeler pour la paix dans un monde qui cherche à comprendre le sens de la création. Voilà, donc dès qu'on se réfère à cette perspective de l'unité à partir de la foi, on est invité à un plongeon très profond, parce qu'il y va du Dieu révélé à travers les pages du Premier Testament, mais on ne s'arrête pas là. Dieu reste le Dieu unique qui se dessine sur le visage du Christ. Et la particularité des chrétiens parmi tous les autres croyants, toutes les autres religions, c'est qu'ils disent 3 et 1 pour la foi, c'est pareil. Là, vraiment, au-dessus des Descartes, probablement même aujourd'hui encore, il y a des problèmes. Hein, parce que philosophiquement parlant, ça ne tient pas la route. Logiquement, hein, ça fait un nœud pour la pensée. Et pourtant, l'expérience des chrétiens s'est dit, je suis d'accord que ce n'est pas très très logique, mais ma foi ne peut pas faire autrement que de jubiler parce que le ressuscité vient réellement à ma rencontre et me révèle comment Dieu est le Père. Non seulement que Dieu est le Père, mais comment Dieu est Père pour lui, le Christ, et pour nous. Et donc, du coup, il y a là vraiment quelque chose qui ne se laisse pas simplement mettre de côté comme une idée. C'est quelque chose qui va avoir une conséquence sur notre comportement. Se placer dans la perspective d'unité est une manière de rendre vivante cette confession de foi dans ma manière de rencontrer les autres chrétiens. Il y a aussi, toujours avec cette note particulière biblique, de tenir à ce que Dieu est un. Et vous savez combien Jésus a été crucifié pour blasphème. Et ça reste aujourd'hui, le mot blasphème, peut-être pas celui qu'on utilise le plus souvent, mais ça revient au même. Comment tu peux dire que l'humain de Jésus est le lieu où apparaît de manière incomparable l'achèvement des promesses de Dieu? Ce n'est que la foi qui peut accueillir ça. Et la foi, elle va, du coup, se mettre en trois directions, dimensions, modalités d'être, modalités, c'est ça que peut-être il faut dire. On appelle ça souvent les vertus théologales. La foi, l'espérance et la charité. Donc la foi qui est nécessaire pour poser cette perspective de l'unité, elle est cet accueil de ce que Dieu nous donne. L'espérance est une manière de porter un regard spécifique sur le temps. Parce que si ce don est déjà présent mystérieusement parmi nous, ça veut dire que le royaume
de Dieu n'est pas loin. Vous savez très bien combien les évangiles sont contradictoires sur ce point. Parce qu'une fois on dit « le royaume de Dieu est là parmi vous » et après on dit « il faut avancer pour qu'advienne le royaume ». Et donc tous les ados que vous aurez accompagnés en famille ou en catéchèse vous disent « bon, c'est ou l'un ou l'autre, mais quand même pas les deux en même temps ». Et ils ont raison de nous indiquer combien la Bible a parfois de ces apparentes contradictions pour nous mettre en marche, pour dire, eh bien si quand même l'un et l'autre sont vrais en même temps. Le temps de la plénitude a commencé, le temps de la fin, l'eschatologie a bien commencé, mais en même temps, nous sommes en route et des envoyés avec le Christ pour que ce royaume se parachève dans l'éternité du Père. Donc, du coup, ça donne quelque chose à dire quand nous sommes ensemble œcuméniquement parlant. Vous connaissez des rencontres où quelqu'un parle comme ça et « Ah, pour vous, c'est protestant. »« Ah oui, mais c'est quoi encore les différences entre les catholiques et les protestants ?» Et moi, j'ai commencé à ne pas répondre. Parce que c'est comme si on savait déjà ce que c'était un catholique. Et donc, il faut juste trouver les quelques paramètres pour dire « Voilà, ça, c'est catholique. » Et ça, c'est, après, c'est peut-être un orthodoxe, ça, c'est un protestant, ça, c'est un demi-protestant, celui-là, il... Voilà. Donc, on part de ce que l'on connaît comme paramètre. Et la contradiction autour de cette expression du royaume nous dit il faut à la fois dire il y a un début, mais il y a encore quelque chose que nous ne connaissons pas. Donc ce que nous connaissons n'est pas... Nous ne savons pas est-ce que c'est central ou est-ce que c'est pas central. C'est Dieu qui les révélera. Du coup, je peux dire, voyons d'abord quelle est la première chose des chrétiens qu'on a tous, c'est de se reconnaître appelé à être témoin du ressuscité. Témoin du ressuscité, comme disent les actes des apôtres, ça peut être à Jérusalem, ça peut être à la fin du monde, et tous les autres endroits entre Creil et Clermont de l'Oise, entre deux. Donc, du coup, l'envoi, donc ce qui est déjà donné et ce qui n'est pas encore donné, c'est de l'ordre donc, de l'espérance. Mais il faut la tenir d'un côté là où le savoir voudrait prendre le dessus pour simplement classer les gens comme on fait en biologie, donc ça c'est une plante comme ça et ça c'est une plante comme ça. Et en même temps, il y a un danger dont peut-être nous deux sommes davantage témoins, la tentation dans les églises de dire, eh ben, on se connaît un petit peu maintenant, c'est très bien, restons comme nous sommes. Donc, de se contenter avec un non-cheminement vers l'unité visible. Et donc, ça évoque déjà un autre des impératifs. Donc, on a l'espérance est bordée par deux tentations. Une, de réduire le tout à un savoir, et dont je suis moi le premier qui donne après les critères, ou l'autre de dire bah, tout va bien, on est un peu différent, mais tout va bien. Voilà deux choses pour l'espérance. Troisième vertu théologale, c'est l'amour. L'amour, c'est une action dans l'aujourd'hui. La perspective de l'unité n'est réellement intégrée que lorsque ça va changer ma manière de me positionner, de parler, de faire des choses. Alors, à partir de cette manière un peu construite de vous indiquer ce que pour moi évoque cet impératif de la perspective de l'unité, on pourra prendre comme figure Abraham. Tout le monde connaît. Le premier travail que fait Dieu quand il s'adresse à Abraham, c'est une déprogrammation parentale. Une déprogrammation. Vous connaissez tous les programmes pour vos ordinateurs, et de temps en temps, quand il y a un virus qui s'est mis quelque part, il faut déprogrammer. Quel était le virus pour Abraham? Par son père. Là, il faut aller au chapitre 11 de la Genèse et pas simplement chapitre 12. Au chapitre 11, le père dit à sa famille, on va à Canaan. Et donc, ils prennent la route normale. Finalement, le père meurt avant qu'il soit arrivé au but. Et un bon fils, il va mener à bien le programme, l'héritage que lui a laissé le père. Et Dieu intervient exactement là et dit, attention, en route, très bonne idée, ça tu gardes de ton père, se mettre en route. Mais lâche l'idée que le but est plus important que le chemin. Je ne te dis plus que tu dois aller à Canaan, je te dis simplement, tu dois aller à la rencontre d'autrui. Et donc, si on serait jamais arrivé ici si on était allé au guichet pour dire on doit partir, mais on ne sait pas très bien où. Donc, vous voyez la déprogrammation. La déprogrammation spirituelle est une manière de lâcher prise comme si on savait déjà comment était et où était le pays de l'unité où Dieu veut nous mener. Mais une fois que le but très clairement envisagé avec une pancarte, on devient beaucoup plus sensible à ce qui se passe en route, au jour le jour. Et l'inconnu devient un lieu à habiter avec la bénédiction que j'ai reçue. Et avec cette bénédiction, la rencontre à construire avec l'autre. L'autre jour, je parlais à des moniales bénédictines, et justement, on parlait de ce passage, et une des sœurs me dit, moi, je prie toujours Dieu pour qu'il fasse pour tous les humains exactement comme ce qu'il a fait pour moi. Il est venu se révéler à moi, c'est mon bonheur, et je lui dis, fais comme ça pour tous les autres. Et je lui dis, je comprends très bien votre prière. Mais si je prends au sérieux ce texte Genèse 12, Dieu cherche autre chose, il ne cherche pas cette prière-là. C'est trop facile. Dieu a envie, non pas d'aller direct à tous, indépendamment de nous, il cherche le chemin très compliqué de se rendre dépendant de nous. Enfin, il peut toujours aller en direct si on rate trop. Mais notre envoi est celui, non pas de prier pour qu'il fasse la même chose pour les autres, mais de prendre au sérieux tellement la bénédiction reçue que j'en fais mon chemin pour l'apporter chez l'autre. La bénédiction que j'ai reçue, et ça c'est certainement une nouveauté en tout cas, il me semble, là je parle pour les protestants, ça fait 500 ans où je ne suis pas sûre que les protestants aient bien compris ce texte biblique qu'ils aiment à lire. Donc, une modalité d'accès. Donc, prendre la perspective de l'unité, c'est une question de foi, c'est une question d'espérance, de réalité dans le temps, de cheminement dans le temps, et c'est une question d'action aujourd'hui. Ça me paraît indispensable pour aller de l'avant. Donc, du coup, c'est vraiment un exode à vivre. Donc, sortir des habitudes, quand je regarde la tradition dans laquelle j'ai grandi, et Dieu me dit, ça tu connais déjà, là je veux pour savoir si tu ne pourrais pas t'enrichir de traditions que d'autres te partagent. C'est donc un exode à vivre, mais non pas pour que les autres deviennent à mon image chrétien dans la tradition qui est la mienne, mais c'est d'aller proposer un regard de non seulement de bienveillance, mais de bien accueillir ce que l'autre est et ce que l'autre fait. Et là, vous entendez tout de suite, hein, donc on a encore du chemin devant nous. Donc, se munir de la bienveillance de Dieu pour rencontrer les autres, pour dire bien qui ils sont, et ça, c'était le petit exercice que vous avez mis en œuvre, bien dire comment on les perçoit, mais aussi dire du bien alors qu'ils font si différemment que moi. Est-ce qu'on peut devenir des bien-diseurs des autres? Voilà un vrai défi pour ce premier impératif. Donc, sortir des habitudes théologiques, liturgiques, spirituel, éventuellement sociologique, renoncer à vouloir se définir à partir d'une comparaison. Les autres nous mettent très vite en comparaison. Hein. Est-ce que je peux renoncer à jouer à ce jeu-là? Ça peut être comparaison, concurrence, compétition. Hein. Voilà, il y a plein de ces... ou ignorance. Donc, tout ça, ça participe du même enjeu, bien dire, donc bénédiction, ou médire. Et médire, c'est... Le français, il est magnifique là, hein, parce qu'il dit, c'est pas très bien dit ce que tu dis là de l'autre, ou c'est carrément mal dit, ou tu as carrément dit du mal. Voilà, tout ça, ça fait un ensemble. Donc, pour ce changement-là, pour cette perspective-là, je ne peux pas m'appuyer sur les terres parentales d'Abraham. Hein. Donc, si Dieu nous propose de quitter certaines habitudes, c'est pour que nous recevions à frais nouveau quelque chose qu'il veut effectivement donner, pour qu'advienne ce à quoi il aspire et ce à quoi il nous incite à prier. Mais encore faut-il que nous soyons aussi les acteurs. Voilà, donc il me semble, ça veut dire qu'il faut inventer un langage différent, probablement aussi prier différemment, dans les dialogues se poser un peu autrement, et très clairement dans la liturgie, je ne sais plus très bien si on l'avait déjà dit la dernière fois, mais si on pouvait rendre grâce davantage pour les autres marqués du sceau du baptême dans nos célébrations dominicales. Ça changera certainement quelque chose dans notre cœur. Donc, c'est parfois on dit nous te prions pour, et on ne dit pas pourquoi. Et donc, on ne sait pas très bien est-ce que les autres souffrent, est-ce que les autres, je voudrais qu'ils soient changés, est-ce que je voudrais que. Je demande quoi à Dieu quand je dis prier pour. Donc, de rentrer dans des précisions. Et je crois que la première précision, c'est devenir capable de rendre grâce de ce que l'autre ne soit pas comme moi. Et là, du coup, ça se discute évidemment un peu dans certains lieux. La prière dite catholique, en fait, c'est une ancienne manière de parler de la prière d'intercession, la prière catholique, elle ne laisse guère la possibilité de dire merci. Mais parfois, on peut quand même s'arranger pour dire, voilà, on te remercie, mais on aimerait qu'il y ait un chemin qui continue. Voilà, je vais m'arrêter là pour le premier point et je te laisse continuer, Franck.
Merci Agnès. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire vos comptes rendus. J'essaierai d'intégrer l'une ou l'autre question que j'ai repérée dans mon exposé. Alors, j'ai aussi eu des surprises en lisant, par exemple, dans la bouche d'un protestant, qu'il avait bien profité de la lecture de Saint Ignace de Loyola. Bon, voilà, comme dominicain, je n'ai pas commenté ça, vous voyez bien. Donc, j'ai fait un tri quand même dans vos remarques. Alors, moi, je voudrais plutôt insister sur le deuxième et le troisième impératif. Il me semble qu'en décembre, dans nos exposés, on avait insisté sur la manière de dépasser le stade du conflit, qu'on regarde plutôt avec ces impératifs aujourd'hui, comment avancer vers la communion. Et dans une perspective très, très biblique, Agnès a déjà développé ça dans son intervention. Il me semble que ce document du conflit à la communion adopte une compréhension de cette avancée vers l'unité que je vais essayer donc de préciser et théologiquement. Le deuxième impératif dit que nous devons nous laisser transformer par la rencontre de l'autre. Donc on pourrait parler d'une conception transformatrice de l'unité. Vous voyez, on n'est pas dans la reconnaissance mutuelle qui peut être trop statique, mais alors peut-être on pourrait employer un autre vocabulaire, celui de la conversion, du changement. Le mot conversion est utilisé dans le premier impératif, mais malheureusement à titre individuel. Je pense qu'il faut viser là une conversion plus collective. Dans le troisième impératif, vous avez aussi l'affirmation très claire qu'il faut un enthousiasme qui ne se contente pas de la situation présente. Donc vous voyez vraiment une conception dynamique de l'unité. Donc c'est ça que je voudrais regarder avec vous. Une fois dépassé le conflit, comment avançons-nous vers la communion? Donc, il me semble que une compréhension de l'unité comme coexistence pacifique n'est pas suffisante et qu'elle est même écartée par ces deuxième et troisième impératifs. C'est vrai que le dialogue œcuménique, il est difficile et exigeant, et donc c'est pas si étonnant que ça que nous soyons tentés parfois de rester chacun sur nos positions, en nous contentant, et c'est déjà pas mal, d'éviter les tensions, donc d'en avoir fini avec le conflit, en reconnaissant, voilà, de manière polie et courtoise, nos différences, mais en renonçant à nous engager à des pas plus plus avancées, qui sont forcément risquées pour nos habitudes, pour nos sécurités. Quand même, hein, j'ai l'impression que le contexte ambiant, c'est-à-dire le contexte social, pousse à cette attitude qui est présentée hein, comme la plus sage, la plus réaliste. Donc, ne pas se contenter d'une simple coexistence pacifique. Je vais être un petit peu plus critique. Il me semble qu'il y a une variante hein, de ce statu quo, de cette coexistence pacifique, dans ce qu'on appelle en théologie la diversité réconciliée. Je touche un point un peu sensible parce que cette manière de comprendre l'unité, elle est celle qui a été mise en œuvre dans la fameuse déclaration sur la justification dont il est en question dans les documents, donc déclaration signée en 1999 par l'Église catholique et la Fédération luthérienne mondiale. Avec cette déclaration, les deux familles ecclésiales, catholiques et luthériennes, ont admis hein, que sur la question si centrale du salut et de la justification, des formulations théologiques différentes, portées par un consensus fondamental, sont aujourd'hui légitimes. Je recite un tout petit extrait hein, de cette déclaration sur la justification, numéro 40. La compréhension de la doctrine de la justification présentée dans cette déclaration montre qu'il existe entre luthériens et catholiques un consensus dans des vérités fondamentales de la doctrine de la justification. À la lumière de ce consensus, sont acceptables les différences qui subsistent dans le langage, les formes théologiques et les accentuations particulières dans la compréhension de la justification. Vous voyez bien qu'on a là un modèle, une compréhension de l'unité qui cherche à respecter le partenaire pour ce qu'il est, tel qu'il est, en l'état. Donc ce que les églises ont changé en signant ce texte, c'est l'appréciation qu'elles avaient jusque-là l'une de l'autre. Et c'est bien. Vous voyez, dans cette compréhension de l'unité comme diversité réconciliée, le conflit, la condamnation, l'excommunication ont cédé la place à la réconciliation, comprise comme respect mutuel des diversités. Je ne suis pas complètement satisfait de cette compréhension de l'unité en me demandant s'il est vrai qu'il suffit aux églises de se reconnaître réciproquement, dans leur diversité. Est-il vrai hein, qu'on pourrait se reconnaître mutuellement, apprécier nos différences, mais en restant là. Je vais ici aller regarder du côté des couples mixtes. J'entends les foyers hein, interconfessionnels. Alors, je parle sous le contrôle d'Agnès, qui est référente accompagnatrice hein, de l'association nationale des foyers mixtes. Je suis allé rechercher un texte qu'ils ont écrit il y a quelques années pour décrire leur vie familiale. Et c'est vraiment en fréquentant des couples mixtes et en lisant ce qu'ils disent de leur vie familiale que j'ai compris les limites de cette diversité réconciliée. Donc je vous cite ce texte qu'ils ont rédigé. Quand les deux conjoints commencent à vivre et à avancer ensemble, ils doivent créer leur propre tradition familiale. Ils peuvent évidemment incorporer beaucoup d'éléments qui viennent des deux familles dans lesquelles ils ont été élevés, mais qui doivent maintenant fusionner pour créer un nouvel ensemble. Cette mise en commun de deux traditions familiales va inévitablement inclure des traditions qui étaient auparavant considérées comme des signes distinctifs de l'une ou l'autre des deux communautés ecclésiales. En sens inverse, certaines traditions ecclésiales seront laissées de côté parce que considérées comme inacceptable pour l'un des conjoints ou pour les deux. Dans cette recherche spirituelle commune, le foyer mixte se développe, s'enrichit, se renouvelle et se purifie. Fin de citation. Et avec cette description de vie familiale commune, est proposé quand même un autre modèle d'unité qui, par-delà les seuls foyers mixtes, peut et pourrait être fécond pour nos églises. Je trouve intéressante la manière dont est décrite ce métissage, cette conjugaison des traditions familiales, avec ce qu'elle comporte à la fois d'enrichissement par intégration d'éléments venus de l'une ou l'autre famille, mais aussi avec ce qu'elle comporte de purification par abandon d'éléments traditionnels qu'ensemble on estime ne pas devoir perpétuer. Il me semble en tout cas qu'est décrit là un autre modèle d'unité où il n'est pas simplement question de respecter l'autre dans sa diversité, même si bien sûr c'est un préalable nécessaire, mais où il s'agit de construire ensemble une seule famille, une vie familiale, une vie commune, en discernant les richesses qu'il est fécond d'intégrer et les éléments du passé qu'on préfère écarter. En tout cas, voilà ce que des couples interconfessionnels disent vivre, ou chercher à vivre au quotidien, et voilà, me semble-t-il, ce qu'ils peuvent apprendre à nos églises à vivre. En décembre, j'avais développé peut-être un aspect de ce modèle en évoquant ce thème théologique de l'échange des dons. J'étais allé regarder notamment chez Jean-Paul II comment cette question est traitée. Cette perspective d'un enrichissement mutuel des familles ecclésiales. Je voudrais regarder, creuser un peu plus cette perspective transformatrice de l'unité, cette question alors, que j'ai qualifiée au début donc, de conversion des églises. Y a d'abord une manière pas trop difficile de le faire, encore que, qu'on pourrait appeler une réception renouvelée d'éléments de la tradition que l'une ou l'autre famille d'église a pu abandonner. Pour être concret, je vais prendre un exemple où ça s'est réalisé, sans le redévelopper parce que ça prendrait du temps. C'est la question de la communion sous les deux espèces. On sait bien qu'au cours de l'histoire, l'Église catholique latine a abandonné cette pratique de la communion sous les deux espèces. Je dirais par estrangement avec la tradition orientale, donc éloignement, hein, et puis alors dans un contexte davantage conflictuel avec, disons, la tradition protestante au sens large. Donc on en est arrivé à presque interdire, si vous voulez, la communion au calice, aux laïcs, et je préciserai pour être plus juste, et aussi aux ministres qui ne célèbrent pas. Donc ce n'était pas simplement qu'ils sont laïcs. Enfin bon, passons. Mais vous voyez bien qu'à la faveur donc, de tout le renouveau biblique, patristique et œcuménique du XXe siècle, on a là un exemple où une famille d'église, l'église catholique latine, a retrouvé une pratique qu'elle avait délaissée pour toutes sortes de raisons. Et donc, elle retrouve une pratique commune qui, évidemment, favorise le rapprochement et avec le monde orthodoxe et avec le monde protestant. Donc ça, c'est un exemple de cette conception transformatrice par ce que moi j'appelle la re-réception, la réception renouvelée d'un élément de la tradition qu'on a pu à un moment ou à un autre laisser de côté. Je creuse un petit peu cette question de la conversion des églises. C'est sans doute une expression que vous avez entendue parce que vous intéressé la littérature œcuménique, elle a été surtout mise en avant par le groupe des Tombes dans son document de 1991 qui s'intitule comme ça « Pour la conversion des églises ». Le groupe des Tombes a creusé en pointant la nécessité de cet effort œcuménique par lequel une confession chrétienne purifie et enrichit son propre héritage dans le but de retrouver la pleine communion avec les autres chrétiens. Je cite le numéro 49 de ce document de 1991. Cela suppose que chaque confession reconnaisse qu'il y a chez elle matière à conversion, c'est-à-dire matière pour un progrès réel dans la fidélité à l'identité chrétienne, soit dans le domaine du langage de la foi, soit dans celui de la structure ecclésiale, soit dans la mise en œuvre existentielle de la réalité chrétienne. Puis, précise le document, ces conversions sont dissymétriques, puisque ce ne sont pas les mêmes déficiences qui affectent les différentes églises. Je crois que c'est très juste. Alors évidemment, cette idée d'une conversion, de changement, de réforme, on pourrait dire, dans l'église ou les églises, je pense qu'elle est un peu connaturelle au protestantisme. Donc, en tradition catholique, c'est un petit peu plus difficile à défendre, mais après avoir creusé ces questions, je pense qu'on peut l'adopter, et je vous montrerai que les pontificats récents ont adopté cette perspective. D'abord, on peut la défendre avec une affirmation très forte du Concile Vatican II dans son décret sur l'œcuménisme, Unitatis Redintegratio Integratio, numéro 6, qui dit « Si par suite des circonstances, écoutez bien, en matière morale, dans la discipline ecclésiastique ou même dans la formulation de la doctrine, s'il est arrivé que sur certains points on se soit montré trop peu attentif, il faut y remédier en temps opportun, d'une façon appropriée. » On pourrait traduire autrement le latin en disant « il faut procéder au redressement qui s'impose ». Vous voyez, le redressement qui est envisagé, il n'est pas petit. Donc, bon, des questions morales, okay, des questions de discipline ecclésiastique, mais même des questions de formulation de la doctrine. Donc, vous voyez, on peut s'appuyer sur ce texte conciliaire. On peut s'appuyer aussi sur une encyclique de Paul VI, même époque, c'est 1964, Ecclesiam Suam, qui dit, alors, saute le contexte, mais de là naît un désir généreux et comme impatient de renouvellement, c'est-à-dire de correction des défauts que cette conscience, en s'examinant à la lumière du modèle que le Christ nous a laissé, dénonce et rejette. C'était vraiment l'apparition, dans ces années 1960, dans l'Église catholique, d'un vocabulaire qui bousculait sérieusement la phraséologie ecclésiale traditionnelle, vous voyez, prise de conscience, renouvellement, réforme, c'était pas du vocabulaire catholique. Le texte le plus officiel qui adopte le mot « conversion », il est publié 4 ans après le texte du groupe des Tombes. Moi, je tiens quand même à y voir une influence. Donc, c'est l'encyclique de Jean-Paul II sur l'œcuménisme, « Autonum Sint » de 1995, qui dit « Le dialogue de la conversion de toutes les communautés chrétiennes, sans indulgence pour elles-mêmes, est la base de relations fraternelles bien différentes d'une entente cordiale ou d'une convivialité tout extérieure. » Vous voyez, le vocabulaire même est adopté. Et puis, enfin, donc chez le pape François, donc le plus récent, dans son texte « La joie de l'Évangile », je vais le citer de manière un peu longue, il dit « Dans son constant discernement, l'Église peut aussi arriver à reconnaître des usages propres qui ne sont pas directement liés au cœur de l'Évangile. Aujourd'hui, certains usages, très enracinés dans le cours de l'histoire, ne sont plus désormais interprétés de la même façon et leur message n'est pas habituellement perçu convenablement. Ils peuvent être beaux, cependant, maintenant, ils ne rendent pas le même service pour la transmission de l'Évangile. N'ayons pas peur de les revoir. On pourrait traduire autrement, de les transformer, de les modifier. De la même façon, il y a des normes ou des préceptes ecclésiaux qui peuvent avoir été très efficaces à d'autres époques, mais qui n'ont plus la même force éducative comme canaux de vie. Il le dit à cet endroit-là, pas dans une perspective strictement œcuménique. Il l'applique ailleurs à une approche plus interconfessionnelle, et il le dit de manière générale. Mais vous voyez, cette perspective de la nécessité d'une conversion des églises, d'une transformation, d'une réforme, est tout à fait défendable en tradition catholique aujourd'hui, et je pense que c'est une perspective que nous héritons de nos frères protestants de manière très, très, très claire.
S'il vous plaît, c'est où dans la joie de l'Évangile
ce que vous... Ah oui, pardon, je ne vous ai pas donné l'avant, numéro 43. Comme vous avez posé, parce que là on est encore un peu au stade du principe, hein, donc je voudrais regarder sur un exemple concret, bon, il y en a beaucoup, et j'ai fait le choix de, puisque vous aviez posé une question sur le baptême, de regarder un document œcuménique qui traite du baptême, et donc, et aussi, votre question c'était pourquoi la nécessité d'une éducation chrétienne après le baptême des enfants. Donc je vais regarder un texte qui, à mon avis, a été rédigé dans cette perspective transformatrice ou conversionniste de l'unité. Ça m'arrange bien, parce que c'est un texte où l'Église catholique n'est pas impliquée, mais qu'elle pourrait signer, je pense, de manière assez facile. C'est le texte du dialogue entre luthéro-réformé d'une part et baptiste d'autre part, un texte européen qui date de 2004, qui s'intitule « Le début de la vie chrétienne et la nature de l'Église ». Il aborde précisément la question que vous posiez sur la nécessité de l'éducation chrétienne des enfants et la possibilité de baptiser un enfant sans perspective d'éducation dans la foi. Alors ce texte, il traite de manière plus large, hein, de ce qu'on appelle le pédobaptisme, donc la pratique luthéro-réformée pour les signataires du texte, mais encore une fois identique pour le monde catholique. Donc cette pratique du baptême des nourrissons qui n'est pas acceptée par la tradition baptiste, autre signataire du texte, avec donc une différence insurmontable, vous voyez. On est bien là dans un exemple où vous voyez, le modèle de la diversité réconciliée ne fonctionne pas très bien. Hein. On peut dire, ben vous faites comme ça, nous on fait comme ça, et puis ben voilà, c'est bien. Voilà. Et le problème qu'on connaît, pastoral, qui est soulevé par ce texte, c'est le cas où il y a passage d'une église à l'autre, en l'occurrence le passage dans le sens venant du monde luthéro-réformé vers le monde baptiste, avec ce que certains perçoivent comme un nouveau baptême et que les autres considèrent comme un premier baptême s'il n'y a pas reconnaissance du baptême des nourrissons. Vous voyez le problème, hein ? Alors ce texte, là où il est intéressant, c'est qu'en final, il propose aux deux familles d'Église une conversion, une transformation. Alors, il se place dans le respect des pratiques, donc d'une certaine manière dans une perspective de diversité réconciliée. On ne demande pas aux baptistes de baptiser des nourrissons et aux luthéro-réformés de cesser de le faire. Mais la question, c'est un complément, un changement qui favorise l'unité, qui permet d'avancer vers la communion. Je vais vous lire deux citations, peut-être, qui montrent quelle est la conversion proposée. C'est ici. Le chemin suivant pourrait être envisagé. Même si la plupart des baptistes considèrent que le baptême des nourrissons est inapproprié, ils pourraient ne pas remettre en cause explicitement sa validité et ne demander qu'une confession de la foi lors de la réception d'un croyant au sein d'une paroisse baptiste, une confession qui compléterait le chemin de l'initiation chrétienne. Vous voyez, là, alors c'est sous le mode de la proposition, hein, puisque c'est une commission de théologiens qui rendait compte aux autorités des églises, mais voilà la conversion qui est proposée au monde baptiste. Mais il y a une conversion, donc dissymétrique, qui est proposée aux luthéraux réformés, je vous la lis. Nous exhortons les églises baptisant des nourrissons à accompagner les baptisés sur le chemin de leur foi par la prière, la pastorale et l'enseignement. Elles éviteraient ainsi de donner l'impression qu'elles baptisent des nourrissons dans des cas où il est improbable que le baptême sera suivi d'éducation chrétienne. Vous voyez la perspective. Donc, de part et d'autre, hein, c'est bien une transformation qui est demandée et pas simplement la reconnaissance mutuelle de pratiques différentes. Je vois que le temps tourne. Je peux quand même prendre un exemple, hein, de cette perspective de la conversion, alors cette fois-ci en revenant à la tradition catholique. Je crois que le domaine où le magistère catholique est le plus disposé à opérer cette conversion, c'est sur la question de la papauté, c'est-à-dire sur la manière de concevoir le ministère de l'évêque de Rome et le rôle qu'il peut jouer dans la communion des églises. On avait ça déjà dans l'encyclique de Jean-Paul II en 1995, et le pape François a renchéri, toujours dans le même texte, la joie de l'évangile, au numéro 32, je vais vous en lire un petit extrait. Voilà. « Du moment que je suis appelé à vivre ce que je demande aux autres, je dois aussi penser à une conversion de la papauté. » L'expression est quand même forte. Hein. « Il me revient comme évêque de Rome de rester ouvert aux suggestions orientées vers un exercice de mon ministère qui le rende plus fidèle à la signification que Jésus-Christ entend lui donner et aux nécessités actuelles de l'évangélisation. » Le pape Jean-Paul II demanda d'être aidé pour trouver une forme d'exercice de la primauté ouverte à une situation nouvelle. Nous avons peu avancé en ce sens. La papauté aussi et les structures centrales de l'Église universelle ont besoin d'écouter l'appel à une conversion pastorale. Vous voyez, à nouveau, hein, on n'est pas dans une conception statique de l'unité qui dirait ben, « vous avez un pape, on en a pas, on en a barre ». On est dans une conception dynamique, transformatrice, conversionniste, si vous voulez, où on essaie de repérer les transformations nécessaires et elles peuvent toucher à des questions aussi centrales, pour les catholiques en tout cas, que le ministère du pape. Donc vous voyez, il me semble hein, qu'on a là, avec ces impératifs 2 et 3, vraiment une manière de concevoir l'unité très, très exigeante.
Merci beaucoup, c'est toujours passionnant de t'écouter. Pour ce même petit grand impératif de l'étroit, donc de se laisser toucher, je pensais qu'il serait important aussi de pouvoir prendre les initiatives. Donc, je suis touchée simplement si je me déplace pour rencontrer et que je souhaite être touchée non pas pour rejeter, mais pour grandir. Donc on a fait pas mal de connaissances où soit on était poli, on n'a rien dit, aussi longtemps qu'on était ensemble, que ça allait bien, mais une fois chez soi, on s'est dit, oh, tu te rends compte comment il faut, comment je ne pourrais pas vivre comme ça. Hein. Et donc ça, c'est communément dans toutes les traditions, quelque chose qu'on a pratiqué. Et ça s'explique facilement. C'est les premiers contacts, la première fois que vous mangez un plat que vous n'avez jamais encore goûté, ça fait étrange. Donc on a tout à fait le droit de passer par cette surprise étrange que nous ne trouvons pas tout de suite bienfaisante. Mais donc à poursuivre. Est-ce que je continue à m'exposer à la rencontre jusqu'à ce que j'y trouve quelque chose de positif? Et avec une grande capacité à apprendre, me semble-t-il, de faire la différence entre une expression populaire de la foi, les réalités théologiques, qu'elles soient du XVIe siècle, du XIXe siècle, du XXIe siècle, c'est pas pareil, et les orientations pastorales. Donc, il ne faut pas tout confondre. Et ce n'est pas parce qu'une expression populaire de la foi peut ressembler peut-être encore au cliché que j'ai connu quand j'étais gamin, doit être pris comme ce qui est au cœur de la tradition de l'autre aujourd'hui. Je vous donne un tout petit exemple. Je ne sais plus très bien si je vous ai dit que j'ai grandi dans une zone où il n'y a vraiment pas de catholiques. Et donc, du coup, ma plus grande découverte du catholicisme, ce fut pendant les années de l'Europe divisée en deux, entre la partie occidentale et la partie orientale. Et la Pologne, à l'époque, était le pays où on pouvait le plus facilement se rencontrer entre jeunes chrétiens, hongrois, roumains, tchèques, slovaques, allemands de l'Est, etc. Parce qu'il y avait un peu plus d'espace laissé aux églises, politiquement pas. Et donc, je me suis inscrite au pèlerinage qui va de Varsovie à Częstochowa, ça fait 360 km à pied. Et donc, à l'époque, c'était un lieu justement où les jeunes, les étudiants, trouvaient de quoi se rencontrer et échanger entre eux. Mais ce sont des pèlerinages avec beaucoup de monde, de genre 17 000 personnes, donc du coup, c'est vraiment du monde. Et il y avait beaucoup de personnes très très modestes, des campagnes polonaises, qui s'étaient préparées toute l'année, et certains pendant des années, à faire ce pèlerinage comme une expression profonde de leur foi. Je le savais. Et donc, du coup, même des expressions qui pour moi étaient vraiment très étranges, et probablement si je vous dis ce que j'ai vu, ça vous paraît à vous un peu étrange aussi. Donc, c'était notamment des vieilles paysannes qui avaient leurs sabots en bois et avaient mis des pois séchés au fond de leurs sabots et marchaient 360 km avec ces petits pois séchés dans leurs sabots. Et le but, c'était vraiment de sentir chaque pas qu'elle faisait. Si j'avais juste lu ça dans un livre, j'aurais dit, vous voyez ces cadeaux qui sont complètement fous. Là, j'ai vu, j'ai rencontré, j'ai marché à côté de ces personnes. Et j'ai pu être témoin d'une foi qui m'a profondément touchée. Même si je n'ai pas fait comme elle. Donc, il y a pour moi dans cet impératif quelque chose qui demande de durer sur le chemin de foi de l'autre pour ne pas en saisir simplement un petit bout qui me paraît complètement incompréhensible, mais de durer jusqu'à ce que j'ai compris en quoi la grâce est donnée à l'autre et que elle reçoit de la grâce aussi pour moi. Vous voyez, donc c'est un exemple qui est relativement extrême, mais c'était peut-être la première fois pour moi où j'ai compris quelque chose de ce cheminement vers l'unité. Et ces braves paysannes, elles n'ont jamais encore vu un protestant. Hein, pour elles, si j'avais des cornes et des pieds fourchus, elles m'auraient cru tout de suite, puisque le soir, il fallait se laver les pieds les uns aux autres, parce que tout est bon. Voilà, et on avait juste un tout petit peu d'eau, donc elle voyait bien que j'avais les pieds fourchus. Voilà, donc il y a là des choses dont on peut guérir parce qu'on se tient ensemble dans un même lieu de foi. Donc, je voulais simplement dire ça par rapport à cette disponibilité. Donc, se laisser toucher et se transformer en positif, non pas pour prendre recul, pour mieux abattre l'autre. Ça demande une disponibilité du cœur qui est considérable. Et les textes que tu viens de citer, en fait, sont la preuve qu'il y a eu de cette disponibilité croyante pour dire le changement de langage. Impressionnant et pas seulement de langage mais d'attitude pour dire on pourrait faire autrement. Il y a un autre point où il me semble pour la grande famille des protestants, je vois une nécessité de se laisser toucher à nouveau davantage par les 15 siècles d'histoire commune partagée avec la grande famille catholique et au moins un millénaire en commun avec les orthodoxes. Et donc, en fait, l'ensemble du temps est notre temps. Et on a un regard trop clivé pour dire, finalement, on commence uniquement à partir du moment où on est différent. Ça ne va pas. Ça va pas. Donc, il y a un vrai souci d'intégration. Il est vrai que les réformateurs étaient très portés sur la patristique. Donc, ça n'a pas tout à fait disparu. Donc, une bonne connaissance des pères de l'Église, grecs ou latins, est relativement assurée du côté théologiens, en tout cas, dans les églises historiques protestantes. Mais il me semble que ça ne suffit pas. Et un deuxième point où il y a une grande lacune, et c'est pas simplement l'histoire de l'Église, j'ai appris que vous alliez vous lancer un peu sur l'étude de l'histoire des chrétiens dans les années à venir. Je crois que c'est vraiment très 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 important de savoir que ce que l'on pense être une constante depuis des siècles est peut-être relativement récent et a été formulé sous la particularité de tel ou tel moment. Ce fameux sola scriptura que j'ai vu dans vos papiers, que beaucoup de protestants disent toujours, ils ne savent même pas d'où ça vient. En fait, ce n'est même pas Luther qui l'a dit. Ça a été formulé un peu plus tard. Ça vient du conflit autour de la question de l'autorité. Qu'est-ce qui est, en matière de foi, une référence obligée pour tous? Et ce sont les écoles de lecture. Et donc, à l'époque, ça faisait difficulté parce que il y avait certains théologiens qui disaient, mais non, c'est d'abord les théologiens, notamment ceux qui sont à Rome, et vous pouvez laisser les Bibles fermées, si vous allez écouter ceux qui parlent à Rome, ça suffit. Et donc du coup, c'était une question controverse. C'était pas... Parce qu'on sait très bien que la Bible en elle-même, c'est pas un livre avec application. À mettre en œuvre comme ça. Donc, du coup, c'est beaucoup plus complexe. Mais donc, le deuxième point sur lequel je pense qu'il y a une carence, c'est pas simplement l'histoire de l'Église en général, ça c'est un point, et un autre point où on gagnerait beaucoup à se laisser toucher, c'est les témoins de la foi dans les siècles. Demander à un protestant de citer trois personnes avec une foi transformatrice, transformante pour chaque siècle, ils sont incapables de vous le dire. Tellement on a mal considéré celles et ceux par lesquels nous sommes devenus nous-mêmes croyants. Et donc du coup, là, il y a certainement une possibilité pour les protestants de mieux rendre grâce pour la fidélité de Dieu à travers l'histoire avec ses hauts et ses bas, ses richesses et ses difficultés. Voilà, donc il y a, dès qu'on parle d'un impératif comme celui-là, ça a des conséquences assez fortes, me semble-t-il, sur notre manière de nous situer. Voilà, ça c'était un petit point que je voulais encore rajouter sur cette question de se laisser toucher pour accueillir des transformations de manière voulue et de travailler à cette transformation. Et donc pour la prière, cherche. Ça rentre déjà un peu dans cette manière de chercher l'unité visible pour en étudier les étapes concrètes. Vous connaissez probablement cet adage spirituel très, très fort qui dit « Prie comme si Dieu faisait tout et travaille comme si Dieu ne faisait rien. » Donc prie comme si Dieu faisait tout. Il faut tout lui confier. Mais quand tu te mets à travailler, tu fais comme si Dieu ne faisait jamais rien. Donc parfois, on le met dans l'autre sens, mais bibliquement parlant, je ne pense pas que ça va dans la même direction. Et toujours dans le cadre aussi liturgique, je pense que nous pourrions faire de la place en nous, pour les autres chrétiens. Comme moi, je vais de mon presbytère au temple, je croise beaucoup de personnes qui montent à l'église pour la messe, parce que le presbytère est entre le temple et l'église. Et j'avoue que ça me fait chaque fois quelque chose. Ça me fait vraiment quelque chose de nous voir sur le chemin qui va en sens inverse. Et d'une certaine manière, je porte avec moi ces personnes, et pas seulement les personnes, mais la réalité que nous célébrons dans des lieux qui sont quand même proche géographiquement parlant, et que nous n'avons pas trouvé comment être autrement ensemble. Et donc, personne de nous n'a des possibilités de prendre des décisions institutionnelles fortes. Mais nous avons tous la possibilité de faire en nous une place devant Dieu pour nous présenter à Dieu accompagné de ces autres chrétiens qui, physiquement parlant, ne sont pas dans le lieu où je me tiens. Donc, tout à l'heure, je parlais de la prière catholique, de la prière d'intercession. Ici, c'est plus une disponibilité intérieure déjà pour ne pas me présenter seule devant Dieu. Il y a aussi parfois, là pendant la Semaine Sainte, j'ai souri le Vendredi Saint. J'étais pas seulement chez moi, mais j'étais aussi à l'échelle du bateau. J'ai entendu un jeune parler des chorales de Bach. Et il en parlait comme d'une nécessité absolue pour la liturgie de s'appuyer sur le choral de Bach. Et jusqu'à aujourd'hui, c'était une paroisse que je connais pas très bien d'ailleurs, je ne sais pas si ce jeune homme est tellement naïf et il pense que Jean-Sébastien Bach était un bon catholique, ou s'il est tellement intelligent qu'il a présenté de manière telle que ceux qui ne le connaissent pas ne puissent recevoir la musique que l'orgue offrait au cours de cette célébration. C'était les chorales de Jean-Sébastien Bach. Du coup, je ne le sais pas, mais d'une certaine manière, je trouve que c'est intéressant. Combien aussi la musique est un lieu qui nous forge les uns les autres. Et vous, les catholiques, vous savez combien aujourd'hui le recueil utilisé dans un bon nombre d'églises protestantes comporte de compositions qui ont vu le jour depuis le Vatican II, aussi bien au niveau des textes qu'au niveau des musiques. C'est un échange, et donc c'est un peu ce que tu disais, les gens, mais parfois on n'y pense même plus. Mais c'est considérable de partager là-dedans. Alors, il y a quelque chose autour de la puissance de l'Évangile, et ça c'est un mot qui revient à plusieurs reprises dans vos feuilles, redécouvrir la puissance de l'Évangile. Et là, on est encore dans quelque chose qui n'a pas de l'ordre du discours, mais de l'ordre du bouleversement intérieur. Est-ce que nous sommes toujours encore prêts à nous laisser bouleverser aujourd'hui ? Une nouvelle qui fait du bien et qui reste neuve ne peut pas être un discours, ne peut pas être une formulation répétée de choses qui glissent sur nous. Pour que quelque chose puisse féconder mon aridité intérieure, il y a une exposition nécessaire à la pluie de Dieu. Donc, l'Évangile, ça mouille. Ça mouille pas mal. Et donc, redécouvrir ça ensemble me paraît être possible, entre autres, évidemment, à travers des rencontres, à travers des études bibliques. Des études bibliques dont le but ne serait pas d'acquérir des savoirs, mais dont le but serait de renouveler notre cheminement de prière. Et donc, je donne trois étapes, après je te laisse le mot de la fin. il y a... On s'expose au texte biblique qui vient d'une autre époque, qui ne parle pas exactement de nos cultures. Donc, il y a là quelque chose dont on prend acte, on s'expose à un texte. Deuxième étape, c'est laisser ce que ce texte expose rejoindre en moi mon monde de désir. Le monde de désir, c'est celui qui dit notre monde est encore en développement, en croissance, en conversion, en changement. Qu'est-ce que ce texte vient faire avec mes désirs? Donner forme, donner contenu à mes désirs. De là, devenir... rentrer en dialogue. Le dialogue avec Dieu, donc prière. Et cette prière peut être personnelle, cette prière peut être partagée, collective. Et dernière étape, une lecture biblique qui implique jusqu'à la contemplation. C'est un mot qui n'est pas très très souvent utilisé dans nos paroisses. Mais si je dois le traduire, c'est de rester au-delà de ce que je demande à Dieu à partir de ce que j'ai lu, à partir de ce qui m'a été donné, goûter dans l'aujourd'hui quelque chose de cette plénitude déjà commencée. Et là, vous entendez bien que je rejoins ce que je disais tout à l'heure. Si je ne suis pas touchée par un royaume qui a déjà commencé, donc je peux déjà goûter quelque chose, c'est du vermillage. C'est rien. Ça ne porte pas des fruits. Et donc, du coup, nos lectures bibliques doivent pouvoir aller jusque-là.
Merci, Agnès. Bon, voilà, l'heure est relativement avancé, donc je vais développer d'autres points. Peut-être souligner, juste comme ça pour terminer, dans le dernier impératif, l'insistance sur la tâche missionnaire de l'écuménisme. Je pense qu'il faut quand même là l'exprimer plutôt en termes de regret et d'échec. Il est clair aujourd'hui que l'incapacité des églises, des chrétiens, à être unis est un reste, un véritable obstacle pour la prédication de l'Évangile. Et je dirais, donc je lirai la question de l'unité des chrétiens à celle de l'unité de l'humanité. C'est trop clair qu'il y aurait besoin d'une humanité plus liée, et que nous devons faire le constat que les églises n'ont pas de modèle à proposer. Ça m'a particulièrement frappé. Il y a eu une célébration à Notre-Dame de Paris pendant la COP21, là où les responsables d'église sont avancés, alors avec beaucoup de bonnes intentions, mais encore divisés. Et c'était le moment où, au bénéfice de l'humanité, peut-être de notre survie tout simplement, les gouvernants du monde avaient quand même réussi à prendre quelques décisions en commun, ce que nos responsables d'église n'arrivent pas toujours à faire. Donc, je pense que cette question finale du document, de la pertinence sociale, la pertinence donc missionnaire de la démarche d'unité des chrétiens, doit rester notre perspective et notre souci. Mais je ne vous parlerai pas plus, on va vous laisser du temps pour les questions. parole est à vous.
Je ne vais pas poser une question, mais enfin, je vais faire ce que j'ai ressenti. On a, en aucun cas, vous n'avez parlé de compromis. Aujourd'hui, nous, je pense qu'on en était un peu encore, au point de vue des communistes, au compromis. La conversion... Pardon ? Je n'entends pas. Je disais que jamais le mot compromis n'a été prononcé par Agnès ou Franck. Nous, notre féminisme, jusqu'à présent, je pense qu'on le vit un peu sur ce mode-là. On s'accepte tel que l'on est. Et il y a cette dimension de la conversion que, personnellement, je n'avais pas envisagé à ce point. Voilà, c'est ce que je retiens. D'où l'effort, l'énorme effort à faire. Mais, et quand on, je veux dire, quand on parle de conversion, à mon sens, c'est pas forcément... Il y a l'Église tout entière, mais c'est plus l'effort individuel, la conversion individuelle qui peut conduire à une conversion des églises. Ça, c'est un point de vue. Mais j'ai du boulot encore.
Je pense que la perspective de conversion individuelle, elle est acquise, elle est clairement évangélique, enfin, donc elle est bien là dans toute la... l'histoire de l'Église, enfin, cette perspective plus collective, ou ecclésiale, corporative, enfin, je ne sais pas quel vocabulaire utiliser, de la conversion, ça c'est plus neuf en tradition catholique, en tout cas, hein, et dans la perspective écuménique, que, c'est-à-dire, elle existait, si vous voulez, mais dans l'idée que c'était les autres qui devaient se transformer. Alors ça, c'est bien présent. Je devais se convertir à ma propre vision des choses ou en intégrant mon Église. Mais le fait que ce soit moi ou ma tradition ecclésiale qui soit appelée à être modifiée, ça, je pense que c'est un des fruits du mouvement écuménique du XXe siècle. Et qu'on est effectivement très loin du compromis diplomatique, etc. Bon, qui peut être parfois utile, hein, mais enfin, c'est une perspective, Agnès disait, hein, spirituelle, bien plus forte.
Ouais. Ça fait depuis 3 ans maintenant qu'on avance ensemble, et je m'aperçois que, pour ma part, j'ai vraiment découvert ce que pouvait être l'autre dans sa façon de croire, dans sa façon de vivre. Et je me dis, mais en 3 ans, moi, j'ai déjà découvert tout ça. Et depuis tout ce temps, on n'a pas plus avancé que ça. Enfin, depuis le temps où les travaux avancent, depuis le temps où les rencontres avancent, moi, j'ai l'impression qu'en 3 ans, j'ai avancé grandement, alors que les différentes églises ont plus de temps que ça, en sont aperçues, en sont encore que là. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire le pas pour aller encore plus loin, quoi, enfin, pour lâcher prise, on y va, hein, et qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui empêche le lâcher prise de chacune des églises pour dire allez, maintenant on y va, quoi, on avance ensemble, quoi. Pourquoi est-ce que nous en 3 ans on arrivait, enfin, bon, ben, voilà, il y a tout un grand chemin qui était nécessaire, qui continue encore, mais je dis, pourquoi est-ce que chacune des églises n'arrive pas à lâcher prise en disant allez, hop, on y va, on fait confiance. Puis, on vit et on célèbre ensemble.
C'est fou quand même. C'est effectivement, c'est frustrant. Et en même temps, des groupes humains change rarement très rapidement. Mais donc, quelque chose qui, pour les catholiques, c'est encore un de ces détails, on ne comprend pas très, très très bien, mais pour du côté protestant, on est extrêmement content que ce 5 juillet, il y aura une signature en Allemagne, de ce fameux document que tu as mentionné tout à l'heure et qui est effectivement insuffisant, cette déclaration luthéro-catholique sur la justification par la foi, jusqu'à maintenant, les réformés ne l'ont pas signée, parce que c'est, voilà, c'est une autre tradition, voilà, on laisse les luthérans, c'est bien, hein, mais nous, on n'a pas besoin de ça. Donc, ça fait 20 ans. Hein, donc, pratiquement. Entre-temps, les méthodistes, en 2006, l'ont signé. Donc, les réformés en viennent 20 ans après. Mais c'est simplement pour vous dire, on a besoin d'une espérance qui, à la fois pour soi-même, peut être une bonne dynamique, sans se casser. Au vu des groupes importants et nos églises en particulier. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses évidemment autour de ces questions, hein, parce qu'il y a une fausse compréhension de la fidélité, des dimensions de peur. Des dimensions de paresse, voilà, il y a toutes sortes d'éléments un peu moins théologiques que ça a l'air, qui freinent beaucoup.
Je serais peut-être moins sévère que vous, dans une perspective de temps long, au regard des 2000 ans d'histoire du christianisme, les 3-4 dernières décennies ont fait des pas quand même très, très importants et relativement rapides, encore une fois au regard de l'histoire longue. Donc voilà, c'est bien que vous soyez enthousiaste et soucieux d'aller plus vite, et en même temps, bon, on peut quand même considérer. Voilà, il y a de vrais fruits qui sont venus assez vite. L'autre perspective, alors elle est plus catholique et géographique, c'est que l'Église catholique est une grosse machine, parce qu'elle, voilà, son fonctionnement, le fait qu'elle soit présente dans très nombreux pays, fait que il y a aussi une vigilance sur les avancées à des rythmes différents selon les contextes. J'ai vécu en Irlande. Je comprenais bien que mes frères catholiques irlandais n'avancent pas sur la question de l'unité ou de l'écuménisme au rythme d'un chrétien français. Voilà, parce que leur contexte sociopolitique, historique, etc., était différent. Donc, c'est vrai, en tout cas du côté catholique, on avance toujours en essayant de tenir tout le monde dans cette avancée. C'est pas si facile que ça.
À propos de pratique ecclésiale, vous parlez de la communion sur les deux espèces. Qui est autorisé. Le don est quasiment pas pratiqué.
Ça dépend
dans quel pays.
Et très pratiqué en Angleterre.
Non, je parle en France.
Je vois bien les réserves pratiques. Hein. Quand je discute avec des collègues prêtres, ils mettent plutôt ça en avant. Bon, voilà. Je les comprends. Ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'il n'y ait plus de réserve dogmatique. Vous voyez, c'est possible. Alors, dans ma propre communauté, on le fait de manière tout à fait systématique. L'important, c'est ça. Alors, j'aimerais bien qu'on avance, puisque les questions pratiques ne semblent pas être les mêmes dans d'autres communautés. Donc, c'est sûrement possible. Mais en tout cas qu'il n'y ait plus de l'impossibilité doctrinale de le faire.
Oui, mais moi, je trouve que dans la pratique, il y a une différence entre le dire et le faire, et puis il y a une moindre incarnation. Je trouve que ça n'a pas le même sens.
Vous avez raison, mais je trouve que les catholiques protestent peu à ce sujet, donc je suis content de vous entendre.
Il y avait une question qui venait, je crois, une ou deux fois dans vos remarques, c'est au coup des cours alpha, où on disait voilà, donc ça a été lancé là, mais finalement on n'arrive pas à le mettre ensemble de manière œcuménique. Ça, c'est un constat qui existe un peu partout, et tout simplement parce que le cours alpha comporte ce fameux week-end du Saint-Esprit, et ce week-end a pour but, si je ne me trompe pas, d'offrir une intégration des personnes qui participent dans l'église locale. Et donc, si c'est fait par deux églises, il faut que les membres choisissent à ce moment-là, ils vont aller dans telle église et telle église, et le groupe est déchiré. Et donc, c'est là où une paroisse catholique et une paroisse protestante l'ont fait ensemble, ils l'ont fait une fois et pas une deuxième fois. Parce que le groupe leur a tombé dessus pour dire, mais vous nous racontez tout le temps que c'est la même chose, et pour ce week-end, vous nous séparez, et donc c'est pire. Donc je ne sais pas si c'est ça la raison, mais en tout cas je voulais juste vous donner un retour de ces expériences dont j'ai eu connaissance, qui font que c'est pas si facile que ça à cause du parcours même qui est proposé. Donc c'est pas simplement un approfondissement de la foi, c'est aussi une intégration dans une église locale.
Vous comprendrez aussi une question qui figurait, mais que je n'ai pas traitée, elle était complémentaire de la question du baptême, c'était celle des parrains marraines et donc de leur église d'appartenance en cas de baptême. Alors là, ça visait l'église catholique. Et donc le fait qu'on distingue le parrain catholique et le témoin membre d'une autre église chrétienne. Alors je peux donner quelques précisions. Je pense qu'il y a une explication historique à ça. C'était le code de droit canonique, donc qui précise ça, hein, a été rédigé, modifié en 1983. D'un certain point de vue, c'est trop tôt par rapport à la date de Vatican II. C'est-à-dire que le droit n'a pas suivi la théologie. Et en fait, on a encore calqué, si vous voulez, le monde non chrétien et le monde non catholique. On n'a pas encore suffisamment distingué les choses. C'est vrai que ça n'est pas juste comme exigence. L'autre point, c'est de dire qu'on arrive à des aberrations pastorales, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un parrain catholique particulièrement peu confessant et peu pratiquant, et puis un témoin luthéron, réformé ou baptiste qui va être, lui, bien plus confessant, et donc davantage témoin de la foi chrétienne auprès de l'enfant en question. Donc ça, c'est clair. Alors, je dirais, dans l'attente de la révision du droit canonique, et je pense que ça viendra à un moment ou à un autre, alors avec les lenteurs de l'Église catholique, j'en conviens, il me semble qu'il y a des manières pastorales de dire la chose. Vous voyez très bien, je parle de ça avec mes collègues prêtres, hein, on m'a dit, vous pouvez évidemment dire au début de la célébration, donc nous sommes contents d'accueillir monsieur Machin, qui est parrain catholique de cet enfant, et puis madame Intel, qui n'est que témoin protestant de la croix à l'Union. Si vous commencez comme ça, c'est désastreux. Si vous présentez la chose comme... Et nous sommes particulièrement heureux pour cet enfant quand, en plus, elle pourra bénéficier du témoignage d'une manière autre de vivre la foi chrétienne. Là, bon, on peut très bien intégrer ça. Vous voyez, donc, aujourd'hui, on en est là. C'est, je pense, encore une fois, une lenteur du droit par rapport à la théologie, dont je pense qu'elle sera corrigée dans le futur.
Vous parlez de 1983,
oui.
Et qu'il y a différence par rapport à avant. Avant, c'était possible, et en 1983, ça n'est plus.
C'est-à-dire qu'avant, c'était strictement impossible. C'est-à-dire on concevait pas qu'un parrain ou une marraine puisse ne pas être catholique.
Alors, excusez-moi, mais moi, j'ai une fille qui a été baptisée en 78, mon parrain est anglican, et j'ai un fils baptisé en 85, mon parrain est orthodoxe.
Alors, pour le monde orthodoxe, c'est possible. L'impossibilité n'est pas... La distinction parrain-témoin ne porte que pour le monde protestant. Alors, pour le monde anglican...
Témoin,